Bonjour, je suis ravie de vous retrouver autour d'un café gras pour un nouvel épisode de mon podcast dédié aux alimentations réduites en glucides. Je partage ici régulièrement, seule ou en compagnie d'un invité, des informations et des conseils sur l'alimentation en général et sur les régimes céto et low carb en particulier. Vous pourrez retrouver plus de contenu et notamment des recettes sur mon site www.lesassiettes.fr. Aujourd'hui, il faut que je vous parle d'un truc qui me tient particulièrement à cœur, la croyance populaire qui laisse à penser qu'on est gros parce qu'on mange trop et qui place les obèses dans une position d'échec avant même qu'ils aient fait le moindre effort. S'ils sont gros, c'est de leur faute. À 30 ans, je pesais 103 kilos. Je ne m'étais jamais vraiment préoccupée de mon poids jusque-là, je n'avais pas de complexe, et si je souffrais, parce qu'être obèse est une souffrance pour le corps, pas seulement pour l'esprit, je ne m'étais jamais vraiment inquiétée de ces 30 ou 40 kilos de trop. Je ne sais pas si c'est le fait d'être maman ou si ça coïncidait avec un moment de ma vie où j'évoluais rapidement, c'est le moment où j'ai repris mes études également, mais un jour, j'ai réalisé que ça n'était pas normal. Je me suis rendu compte que non, mon alimentation ne pouvait pas expliquer ces kilos en trop, que certes, mon mari avait pris un peu de bedaine en me rencontrant, mais qu'il n'était pas obèse, lui, et qu'il devait forcément y avoir un problème. Je me suis un peu intéressée aux recommandations nutritionnelles et aux régimes soi-disant équilibrés, puis, en désespoir de cause, je me suis tournée vers le corps médical. Je suis allée voir un nutritionniste qui m'avait été chaudement recommandé. Je suis sortie de son cabinet, pleine d'enthousiasme, avec une liste d'aliments interdits et un plan de repas assez strict et assez classique. Un peu de viande, des laitages, oui, mais allégés, un fruit, un peu de céréales complètes. Bref, le grand topo équilibré. Pendant 4 semaines, je m'y suis tenue strictement. Je n'avais pas de balance à l'époque, donc c'est pleine d'espoir et super fière d'avoir été aussi stricte que je me suis rendue à son cabinet pour notre rendez-vous de suivi. Et là, patatras, malgré tous mes efforts, non seulement je n'avais pas perdu, mais j'avais pris 4 kilos en un mois. Face à mon désarroi, le médecin m'a fait asseoir et m'a dit avec beaucoup de douceur dans la voix « Écoutez, ça n'est pas possible. Dites-le-moi si vous vous levez la nuit pour manger. » Comme tout innocent accusé à tort, je suis montée dans les tours très rapidement, je me suis indignée et j'ai quitté son cabinet en lui indiquant de manière très prosaïque l'endroit où il pouvait se mettre le paiement de la consultation. Avec le recul et maintenant que j'ai lu et étudié sur le sujet, je comprends que ce médecin n'était pas cognitivement en mesure de remettre en question ses certitudes, inculquées en école de médecine et surtout éprouvées par lui. Il n'était pas gros, il appliquait consciencieusement les conseils qu'il prodiguait, et si lui arrivait à maîtriser son poids, c'était bien que lui faisait ce qu'il fallait. On retrouve d'ailleurs ce biais également chez de nombreuses personnes qui pratiquent le céto et imaginent que ce qu'elles font fonctionnera de la même manière pour tout le monde. Bref, je ne me suis pas découragée, j'aurais pu. Peut-être parce qu'à ce moment-là de ma vie, je me sentais particulièrement forte, parce que j'étais bien entourée, que j'étais heureuse. Toujours est-il que j'étais déterminée à trouver ce qui ne fonctionnait pas ou mal et qui puisse expliquer pourquoi moi, en mangeant plus ou moins normalement, j'étais obèse. J'ai eu la chance immense de croiser la route du docteur Pouzac, décédé depuis. Considéré comme un uluberlu par ses confrères, il s'intéressait à ce qu'on appelait alors, en 2005, le syndrome métabolique. Ce syndrome a pendant très longtemps été vu par les médecins comme un ensemble de pathologies, notamment l'obésité et le diabète de type 2, mais n'a jamais été appréhendé comme étant la cause de ces pathologies. Lors de ma première visite chez ce bon docteur, il m'a dit une petite phrase que je n'oublierai jamais et qui m'a fait éclater en sanglots dans son cabinet. Il m'a dit « Vous n'êtes pas grosse parce que vous mangez mal parce que vous êtes grosse. » J'ai éclaté en sanglots parce que cette petite phrase et les longues explications sur la résistance à l'insuline qui ont suivi, cette petite phrase donc, m'a libérée de toute cette culpabilité qu'on amasse toute notre vie quand on est obèse. Cette culpabilité qu'on nous balance sur les épaules quand, avec beaucoup de bienveillance, on nous recommande d'essayer de bouger un peu plus. Ou quand on nous assène des « tu sais, ce n'est pas très compliqué de bien manger et de faire du sport ». Cette culpabilité donc a explosé en éclats et en larmes ce jour de septembre 2006 grâce à une petite phrase. Cette petite phrase, je l'ai même lue bien plus tard dans le livre de Gary Taube « Pourquoi on grossit ?» et cela m'a fait sourire. Ce bon docteur Pouzac avait 15 ans d'avance. Cette phrase n'a jamais cessé de résonner en moi depuis, et les multiples lectures que j'ai faites, les recherches et les livres que j'ai lus m'ont tous empli de cette certitude. L'obésité n'est pas la conséquence d'un comportement délétère, mais bien d'un dérèglement, d'un déséquilibre métabolique qui va entraîner la prise de poids. C'est aussi parce qu'on a un métabolisme en quelque sorte programmé pour créer du gras plutôt que de distribuer de l'énergie, qu'on a faim en permanence, que bouger un peu semble être un truc insurmontable et qu'on installe donc la spirale infernale de la trop grande consommation d'aliments, entraînant elle-même la culpabilité, entraînant elle-même le besoin de compenser avec la nourriture, etc., etc., etc. Les causes de ce dérèglement métabolique sont clairement multifactorielles et je ne suis pas sûre qu'on puisse vraiment toutes les lister. La génétique en grande partie, mais aussi l'environnement, les additifs industriels dans notre alimentation moderne, le stress, le manque de sommeil, le mode de vie, tout cela impacte forcément à des degrés divers notre équilibre métabolique et hormonal et va donc constituer un facteur aggravant. Mais il faut absolument sortir du mode de pensée assassin consistant à faire de l'obésité les conséquences d'un comportement. Parce que oui, c'est un mode de pensée assassin qui entraîne les obèses dans une démarche d'échec à leur faire appliquer des règles nutritionnelles qui ne peuvent pas fonctionner pour eux. Parce que non, les gros ne sont pas des minces qui mangent trop. Et si on se fiche un peu de ce qu'en pensent les autres, il est vital d'en être soi-même intimement convaincu pour mettre durablement en place les changements nécessaires à rééquilibrer son métabolisme en trouvant son alimentation idéale. C'est la fin de cet épisode. J'ai été ravie de vous retrouver autour d'un café gras. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être informé de la mise en ligne d'un prochain épisode. Et merci pour votre écoute. À très bientôt.